L'Écriture, chapitre 4, verset 2. On va parler du bâton. Vous aimez le bâton? Vous allez voir, c'est un excellent bâton dont nous allons parler ce matin. En fait, il y en aura plusieurs. Hein? Voilà. Mais l'important, c'est de ne pas tendre le bâton pour se faire taper dessus. Là, je le rappellerai en conclusion. Hein? Voilà. Donc, Exode, chapitre 4, verset 2. L'Éternel lui dit, donc il s'adresse à Moïse, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit la main, le saisit et le serpent redevint une verge dans sa main. Amen. Lorsque Moïse jette son bâton, nous l'avons lu, il est changé en serpent. Et lorsque Moïse le saisit par la queue, eh bien, il redevient un bâton dans sa main. Alors, il est possible de dire que le bâton transformé en serpent jeté sur la terre représente quelque chose de particulier dont nous n'avons pas conscience. Quelquefois, nous en subissons les effets. C'est la puissance de l'oppresseur envers les hommes. Amen. Depuis la désobéissance d'Adam et Ève, l'adversaire jouit tout simplement d'une certaine liberté. L'homme, la femme, lui a donné le pouvoir d'agir sur lui. Amen. De le blesser, de lui faire mal. Alors, redevenu bâton dans la main de Moïse, je dirais que cette transformation nous parle de la croix qui est quelque part devenue le bâton avec lequel le diable, lui, va être battu. Amen. Parce que c'est cela. Le Seigneur nous a donné aussi une autorité. Alléluia, nous le verrons. Jésus est celui qui l'a vaincu à la croix du calvaire, le bois. Amen. Jeter à terre le bâton évoque le fait, eh bien, que Satan a été jeté à terre suite à sa chute et à son acte de rébellion. Ésaïe 14, verset 12, nous dit « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. » Qui est le diable? Eh bien, c'est simplement le plus beau des anges, un archange. Il avait reçu une autorité. Il avait du prestige. Et à un moment donné, quelque part, l'orgueil s'est attaché à lui. Et il a voulu supplanter Dieu. Il a voulu être au-dessus de Dieu. Et c'est là qu'il est tombé du ciel, cet astre brillant, ce fils de l'aurore. Depuis, il agit en tant que puissance de la prince de l'air. La puissance de l'air, pardon, c'est l'apôtre Paul qui va dire, Éphésiens chapitre 2, verset 1 et verset 2, « Vous étiez morts, donc nous étions morts, par nos offenses et par nos péchés, dans lesquels nous marchions autrefois, selon le train de la puissance le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant, dans les fils de la rébellion. Nous étions, comme il est dit, morts. Nous croyons que nous étions vivants, mais en fait nous étions morts. Pourquoi ? C'est parce que nous étions séparés de Dieu. Séparés de la vie. Amen. Séparés de Dieu, qu'est-ce qui reste ? Puisque lui est la vie. Amen. Puisqu'il est la beauté, mais il n'y a plus rien de beau. C'est pour ça que nous voyons la laideur de ce monde, bien sûr. Alors, quel sens donner au mot bâton ? A priori, ce mot n'évoque pas quelque chose d'agréable. Le bâton, il symbolise les coups, la violence, les mauvais traitements, et la vie nous en impose beaucoup. Qui n'a jamais subi des coups de bâton ? Pas que physique, ça peut être moral. Ça peut être, là, au niveau psychique aussi. On prend des coups. Amen. Ainsi, je dirais que comme des punitions, des châtiments corporels aussi. Ça arrive le bâton. Hein? Rappelez à l'école. Avance tes doigts. C'était le bâton, hein? La règle. C'était le bâton, eh oui. Alors dans notre langue et notre vocabulaire, le mot bâton a diverses significations aussi figurées. Par exemple, mettre des bâtons dans les roues. Ça vous parle ? Pas quelqu'un qui essaye de te mettre des bâtons dans les roues en ce moment ? Hein, ça évoque quoi? Eh bien, ça nous parle des difficultés, d'actes volontaires destinés à nuire, à faire tomber, à stopper, à arrêter, à faire du mal, tout simplement. Un bâton rompu, c'est d'abord un terme d'architecture qui concerne, eh bien, dans l'art roman, des formes ressemblant à des boudins qui sont brisés en zigzag, hein, tout simplement. Mais par rapport à la façon de parler, eh bien, c'est quoi? C'est une expression qui signifie qu'il s'agit de propos décousus, sans suite, à l'image de ce qu'une certaine manière de vivre pourrait être. Eh oui, on ne sait pas où il va. On ne sait pas où il va en venir. Il nous parle, mais alors, on ne comprend pas. Puis c'est sans fin. À un moment, on lui dit, stop, arrête un peu. Souffle, souffle. Eh oui, parce qu'on va dans tout, c'est tous azimuts, hein, on ne sait pas. On va dans tous les sens. Mener une vie de bâton de chaise, est-ce que ça vous parle, ça? Oui, ça vous parle. Et comme ceux des chaises à porteurs. Hein, ça veut dire avoir une vie déréglée, une vie agitée, une vie dissolue, tout simplement, une vie de patachon. Et quand on vit comme ça, eh bien on s'étonne après que ça ne marche pas, qu'on n'est pas bien, qu'on n'est pas heureux. Souvent dans la gueule de bois. Souvent on est déçu. On va de déception en déception. Et recevoir son bâton de maréchal, qu'est-ce que ça vous inspire? Hein? Ça signifie le couronnement d'une carrière de laquelle il n'y a plus rien à attendre ni à obtenir. C'est le summum. Hein. Alors, ça fait penser à ceux qui sont satisfaits d'eux-mêmes aussi, de leur réussite, même s'ils l'ont accompli sans Dieu. Parce qu'on peut réussir sans Dieu. Amen. Eh oui, on peut réussir sa vie professionnelle, on peut réussir sa vie familiale sans Dieu. Mais au mieux, c'est bien plus important de réussir avec Dieu. Parce que souvent on réussit, mais il y a des regrets. Autour de soi, on a peut-être semé la souffrance, la désolation. On a réussi, mais à côté. Avec Dieu, c'est, il y a toujours cet équilibre. Amen. Je te bénis, mais toi tu bénis. Je t'enrichis, mais toi tu vas pouvoir enrichir les autres. Ça, c'est avec Dieu. Enfin, il y a à consulter son bâton. Alors ça signifie dans le contexte biblique, eh bien, se donner à des actes de divination. Et le bois pouvant être celui des idoles. Et c'est par la bouche d'Osée que Dieu va dire à Israël, Osée chapitre 4, verset 12, « Mon peuple consulte son bois et c'est son bâton qui lui parle. Car l'esprit de prostitution égare et ils se prostituent loin de leur Dieu. » Voyez? Loin de leur Dieu. Moi, j'ai pas envie. Hein. Croyez pas? Puis ça me parle de prostitution. Ah! Eh oui. Donc, j'ai pas envie que Dieu dise tu te prostitues. Vous avez envie, vous? Donc, fuyons ces choses. Amen. Un bâton, tel bâton a été vaincu, il faut le savoir. Il reprit en même. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main, saisis-le par la queue. Il étendit la main, le saisit et cela redevint un bâton dans sa main. Amen. Cet acte signifie que le serpent, l'image du diable, de l'ennemi, notre ennemi, le diable, le serpent ancien, a été vaincu. Vous avez conscience de cela? L'adversaire, le diable, l'ennemi de votre âme, il a été vaincu. Donc il est possible de le saisir et de vaincre son pouvoir. Amen. Et cette grâce, eh bien, elle est accordée à ceux qui croient. Oui, je crois qu'il a été vaincu à Golgotha. Je crois qu'également je suis dans le camp du vainqueur. Celui qui est avec moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Et Dieu est avec moi. Vous pouvez le dire, Dieu est avec moi? Allez-y, je veux vous entendre. Faites-le entendre. Dieu est avec moi. Amen. Alors après sa résurrection, Jésus va s'adresser aux onze et il va leur dire ceci, Marc chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est tout un programme. Mais ce n'est pas le programme de ce matin, hein. On va continuer avec le bâton. Mais déjà, Amen, croire au nom de Jésus, l'accepter comme sauveur personnel. Oui, il est mort à la croix pour moi. Il est monté sur le bois à cause de mes fautes et de mes péchés. Et maintenant, je suis justifié parce que j'ai abandonné ma vie de patachon, de péché, tout ce que vous voulez. Je vis dans la vérité, je marche à la lueur tout simplement eh bien, de la parole de Dieu. Je suis sur le chemin de vie et maintenant, eh bien, j'ai cette autorité. Amen. Au lieu de subir, mon frère, ma sœur, réalise que tu as un pouvoir, une autorité au nom de Jésus sur la puissance de l'adversaire. Alléluia, ne te laisse pas abattre. Lui, c'est un menteur. Il a été vaincu à Golgotha. Vous avez conscience de cela ? Grâce au bois sur lequel Jésus est monté, lui a été vaincu. Il a perdu cette autorité qui était la sienne, ce pouvoir sur les hommes. J'ai changé de maître. Je suis passé de l'ennemi, celui qui est aujourd'hui mon ennemi, le diable, l'ennemi, de mon âme, à Christ, à Jésus, à Dieu. Et quel bonheur! Alors c'est possible à cause, bien sûr, je le dis tout à l'heure, de l'accomplissement de la parole de Dieu dite en Éden. Elle est réalisée, bien sûr, par Jésus, Genèse 3,15. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » La lignée de la femme. Amen. Les hommes et les femmes que nous sommes aujourd'hui, en commençant par Jésus, notre frère aîné, pouvons marcher, écraser la tête du serpent. Et Jésus lui-même l'a affirmé à Nicodème lorsqu'il lui dit que Moïse éleva le serpent dans le désert. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Je fais partie des enfants de Dieu. Je suis un co-héritier avec Jésus. Tout à l'heure, Marcelin a demandé « Qui est riche ?» J'ai levé la main. Je suis riche. Amen. Amen. Qui est fort ? Je suis fort. Parce que Dieu est avec moi. Amen. Alors cette allusion au serpent d'Éren nous procure l'image du serpent qui prend par la croix, je dirais, un véritable coup de bâton, parce que c'est là qu'il a perdu. Il croyait vaincre, se débarrasser de Jésus, etc. La perche, figure de la croix, c'est aussi l'image de ce coup de bâton asséné au diable par le Seigneur. Nombre 21, verset 9. Moïse fit un serpent d'Éren sur l'ordre de Dieu, le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent, regardez le serpent d'Éren et conservez la vie. Amen. La foi, on en parlait tout à l'heure. La foi dans ce que Dieu recommande. C'est important. Vous avez foi dans la parole de Dieu. Ne la mettez surtout pas en doute. Parce que vous mettez automatiquement un porte-à-faux. Elle est une et entière. Amen. Paul va dans le même sens quand il dit que Jésus, Colossiens chapitre 2, verset 15, a dépouillé les autorités, les nations, les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix, par le bois sur lequel il a été crucifié. Amen. Quand Pierre sera chez Simon, il va dire ceci, Actes chapitre 10, verset 38, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de fort Jésus de Nazareth, qu'elle est de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Amen. Dieu est avec Jésus. Jésus a dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » Nous sommes unis. Amen. Jean, lui aussi, donne un signal fort. Quand il dit ceci, Jean chapitre 3, verset 8, « Celui qui pêche, il est du diable. » Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas pécher. Il ne doit pas pécher. Il peut arriver qu'on se trompe. Mais sciemment, on ne va pas se mettre dans les griffes du diable. On ne va pas se mettre dans un travers. On ne va pas tomber dans le mensonge. Mais on marche dans la vérité. Alors, ce qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Amen. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Où j'appartiens au Fils, où j'appartiens à l'ennemi. C'est fort. Et brusque. Mais c'est cela. Amen. Ou je suis une marionnette de l'adversaire, ou je suis quelqu'un conduit par le Seigneur. Sachant que lui, ce qu'il désire pour moi, c'est le meilleur. Amen. Alors en invitant Moïse à étendre sa main, à prendre le serpent par la queue, voilà que Dieu l'invite à s'approprier personnellement la victoire par le moyen de la foi. Alléluia. La foi. Oui, je crois que Dieu est tout puissant. Oui, je crois qu'il m'aime. Amen. C'est différent d'avoir une relation comme ça, d'homme à homme, avec Pascal, par exemple. Avec un autre, hein. C'est avec Dieu. Je ne le vois pas. Mais dans sa parole, il m'a laissé un enseignement. Il m'a laissé des promesses. Il m'a laissé sa parole. Il m'a donné des lettres d'amour. On a fini le cantique des cantiques. Vous êtes régalé ou pas? Alléluia, il y a des découvertes. Hein. Mais c'est ça. Alors tout est là. Et par là, ça part de la foi. La foi dans la parole de Dieu. Dans ce qu'elle a de plus vrai, de plus profond, de plus fort. Amen. C'est Jean qui va dire ceci à Jean chapitre 2, verset 13. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeune Jean, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, verset 14, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Où sont les jeunes gens? Ben, dites Amen. Amen. Et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. Alléluia. Tu as vaincu le malin, mon frère, ma sœur. Amen. Le bâton également, eh bien, il a servi à frapper le Seigneur. Matthieu chapitre 26, verset 47. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des douze, arriva. Et avec lui, une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Ésaïe, lui aussi, nous parle du bâton du châtiment. Et il nous dit que le bâton du châtiment, il est tombé sur Jésus et qu'il s'y est cassé. Amen. Ésaïe chapitre 9, verset 3. Le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian. Amen. C'est bien que Dieu soit pour nous. Hein? Dites-moi. Eh oui. La croix, c'est le bâton de Dieu qui est devenu instrument de délivrance. Et déjà dans la main de Moïse et dans celle également d'Aaron, eh bien le bâton a été l'instrument, je dirais, des actes, des actions déterminantes pour la délivrance d'Israël. Amen, on va en parler. Hein. Dans le livre de l'Exode, chapitre 4, hein, Dieu va dire à Moïse, « Prends dans ta main ce bâton avec lequel tu opéreras des signes. » Et puis on commence. Exode 7, 12. « Tous les magiciens de Pharaon jetèrent le bâton, qui devinrent des serpents ou des reptiles. Mais le bâton d'Aaron engloutit leur bâton. » Moïse jette le bâton devant Pharaon. Ça devient un serpent. Ça n'a pas étonné ceux qui sont autour de Pharaon. C'est des magiciens. Hop, leurs bâtons à eux deviennent un serpent aussi. Mais le serpent de Moïse va gober tous ceux des magiciens de Pharaon. La puissance de Dieu, elle est plus grande que la puissance de l'ennemi. Amen. Exode 7:17, pardon. Ainsi parle l'Éternel, à ceci tu connaîtras ou tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. Me voici, je vais frapper l'eau du Nil et sur les étangs et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Amen. Allez, tu veux pas libérer mon peuple? Paf! Une invasion de grenouilles. Hein, c'est les 10 plaies, vous les connaissez, vous les avez lues, hein, lues sans doute bien sûr. Hein. Également Exode chapitre 14, verset 16. Toi, lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la. Et là, les Israélites entreront dans la mer à pied sec. Amen. C'est-à-dire qu'il va séparer les eaux. Ça va être majestueux, hein. Je pense qu'on va avoir les frissons, hein. Oh. Ah. Ça ne vous est pas arrivé d'avoir les frissons pour quelque chose? Eh oui, eh oui, eh oui. Eh bien là, quand vous voyez ces montagnes d'eau ou ces parois d'eau là, oh, c'est pas un aquarium, hein. Mais on passe à pied sec. Simplement parce que Dieu a dit et que Moïse s'est exécuté. Parce qu'il a cru la puissance de Dieu. Amen. Alors toutes ces actions annoncent la victoire du Seigneur, hein, sur tout ce qui est diabolique, tout ce qui est tout simplement eh bien, la puissance de l'adversaire. Le signe de la mer rouge ouverte en deux annonce cette remportée sur la mort spirituelle et sur la mort physique également. Il y a un bâton également qui a connu une résurrection. Vous vous rappelez de ce bâton? Eh oui. Le bâton d'Aaron, nombre 17, verset 8, affiche-le. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici que le bâton d'Aaron, pour la famille de Lévi, avait bourgeonné. Il avait fait éclore des bourgeons, produit des fleurs et mûri des amandes. Combien de temps? Hein? Une nuit. Une nuit. Alléluia. Le bâton d'Aaron qui a fleuri en une nuit, alors que je dirais que le ministère de son propriétaire était contesté, parce qu'il était contesté à ce moment-là, eh bien ça annonce également quelque chose de particulier pour nous. Non seulement Dieu l'a justifié, il a montré que oui, Dieu est avec lui, d'accord? Mais ça annonce également la résurrection du Seigneur. Amen. Il y a aussi un bâton qui symbolise l'autorité et le pouvoir de Jésus. Ce bâton est aussi appelé un sceptre. Amen. Signe extérieur de l'autorité absolue. Hein. Et oui, parmi la nation, c'est le roi qui avait le sceptre. C'est l'autorité absolue. Et oui. Jacob va y faire référence quand il bénit ses fils avant de mourir. Genèse 49, verset 10. Il dit, le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne de Silo, le Pacifique, et que les peuples lui obéissent. Amen. Il y a une mascarade qui est destinée à couvrir le Seigneur de ridicule, je ne sais pas si vous vous rappelez, après son arrestation, pendant le jugement, etc. C'était prophétique. Et ça s'est fait à l'insu des instigateurs. Comme quoi les hommes sont manipulés sans s'en rendre compte. Hein. Ah oui. Bon, je préfère être conduit, excusez-moi, manipulé par Dieu, pour le bien, qu'être manipulé par l'ennemi. Hein. Hein, il dit que Matthieu 27, verset 28 à 30, hein, ils lui ôtèrent ses vêtements, le couvrirent d'un manteau écarlate. Verset 29, ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Droite. Puis s'agenouillant devant lui, le raillaient en disant, « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sa tête. Et rien. Les hommes qui croient avoir un pouvoir. Hein. Alors, cette caricature de couronnement, malgré eux, annonçait quelque chose de bon. C'est le véritable couronnement dont le Seigneur est digne d'être honoré. Amen. Des fois, on honore des autorités, bon, pour leur rang. Faut le faire. Mais honorer Dieu, honorer le Seigneur Jésus, c'est encore au-dessus. Hein? Amen. En disant, je disais, il faut aimer Dieu plus que nos femmes, ou les maris, hein, pour les femmes, pour les maris, hein, plus que nos enfants. Ben oui, il ne demande pas pour cela de ne pas honorer, de ne pas aimer nos enfants, ni nos femmes, au contraire. Mais Dieu passe au-dessus. Amen. Et pour l'adoration, pour l'honneur que nous devons rendre, Dieu est au-dessus. Deux Rois 4, verset 31. Gazi avait devancé Élisée. Il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y voit ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui a rapporté la chose en disant, « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Et là, nous sommes en présence d'un bâton dont le pouvoir n'est cependant pas magique. Des fois, on peut attribuer, vous savez, de la magie. Hein. Vous savez, ce qui était dans le coffre, ça a disparu. Parce qu'on honorait plus ce qu'il y avait dedans que Dieu lui-même. Et des fois, on se trompe. Eh oui, on adore la créature au lieu d'adorer le créateur. Hein. Alors, serviteur d'Élisée pensait que la puissance de Dieu, de l'homme de Dieu, pardon, elle résidait tout simplement dans son bâton. En fait, il n'en était rien. De même que la puissance de la croix n'est pas un objet, je dirais la représentant, elle est tout simplement dans la foi que le croyant place dans l'œuvre de celui qui a été crucifié. Amen. C'est parce que Jésus a été crucifié sur le bois de la croix que je suis sauvé. Et quand je crois que c'est pour moi-même que Christ a livré sa vie en sacrifice sur le bois de la croix, oui, je reçois le pardon de mes péchés, je suis éclairé, mon cœur est ouvert, il s'est changé, il est transformé. Amen. Mais la croix n'a aucun pouvoir. C'est Christ qui a le pouvoir de sauver, de réveiller les consciences. C'est son œuvre accomplie qui a le pouvoir de nous transformer. Amen. Attention, ne vous procédez pas, ne vous procédez pas devant la croix. Mais prosternez-vous devant Christ. Amen. Toi aussi, un bâton qui brise le bâton de l'oppression. Hein. Ésaïe 9, verset 3. Le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui les opprimait, ou qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Et le brisement du joug et du bâton de l'oppresseur, cela coïncide avec la venue du Sauveur dans ce monde. Et comme l'indique ce texte cité souvent en période de Noël, c'est Ésaïe chapitre 9, verset 2, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'homme de la mort, une lumière resplendit. » La lumière de la vie. Amen. Jésus, la lumière du monde. Amen. Il nous a fait sortir des ténèbres. Pas formidable? Il a éclairé notre cœur, notre conscience, notre âme. Gloire à Dieu. Si je suis un enfant de Dieu aujourd'hui, c'est parce que la lumière a jailli devant moi. Saul de Tarse, à ce moment-là, puisqu'il s'appelait comme cela, a été aveuglé et plaqué au sol. Il est tombé. Mais ensuite, cette lumière, il a pu la voir, parce que des écailles tombaient de ses yeux. Amen. Il a pu voir tout simplement l'amour, la grandeur de Dieu. Et ensuite, il l'a servi. Alors, pour être au bénéfice de cette grande lumière, eh bien, il faut se laisser toucher, je dirais, par le bâton de Dieu. Et d'abord, je dirais, se laisser frapper par lui. Amen. Dans Exode 17, 16, 6, Dieu avait dit à Moïse, « Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Alors, il est vrai que le bâton frappant le rocher qui donne de l'eau, eh bien ça aussi, c'est un type de Christ qui a été frappé à la croix. Amen. Mais il est également possible de dire que le bâton de Dieu, c'est-à-dire la prédication de la croix, doit aussi, quelque part, frapper notre cœur et notre conscience. Amen. La prédication de la parole de Dieu. Folie pour ceux qui périssent, mais puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors, ça ne veut pas dire que le message soit comme une verge, la verge de Dieu, mais ça signifie qu'il est son argument pour nous convaincre. Amen. Le Saint-Esprit rend vivante cette parole en nous. Gloire à Dieu. Et c'est ce que nous voyons dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, dont c'est Pierre qui parle, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre, aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous ? Hommes frères, que ferons-nous ? » Il va leur dire, hein, que chacun de vous se repente au nom de Jésus-Christ, hein, qui reçoive le pardon de ses péchés, et qu'ensuite, eh bien, il s'engage à suivre Dieu. Amen. Alors, il faut que le cœur soit touché par la conviction de péché pour parvenir à la repentance. Judas n'était pas arrivé à ce point-là. Il a eu quoi? Des regrets ou du remords. Mais il n'est pas arrivé à la repentance. Sinon, son corps aurait été changé. Amen. Il ne serait pas allé se pendre. Mais il aurait tourné les regards vers le Seigneur. Il aurait supplié de lui pardonner. Amen. La différence, elle est grande. Alors, il peut aussi, je dirais, à l'exemple du Seigneur, eh bien, laisser s'écouler des fleuves d'eau vive. Jean chapitre 7, verset 38-39. Celui qui croit en moi, vous croyez en lui? Alors écoutez la suite. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il coule des fleuves d'eau vive de ton sein. Amen. C'est l'Écriture qui le dit. Il dit aussi cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Depuis, il a été glorifié. Amen. Donc, l'Esprit de Dieu, le baptême de l'Esprit, ce baptême de feu, tu peux le recevoir. Il faut le demander. Or, on l'a fait dimanche. Qui était dans la semaine visité par l'Esprit de Dieu? Dites, levez la main des pentes. Voilà, gloire à Dieu. Encore quelqu'un? Faut pas avoir honte, hein? Bénissons le Seigneur. Dieu répond à la prière. Alléluia. Alors après, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut se laisser nourrir par lui. Samuel 14, 27 nous montre que Jonathan ignorait le serment que son père avait fait faire au peuple. Il avança le bout du bâton qu'il avait à la main, le plongea dans un rayon de miel, le gourmand, et ramena la main à la bouche, ses yeux furent éclaircis. C'est le combat, la faim, un rayon de miel. Oh, des vitamines. Puis, il n'a pas hésité un instant, hein. Et puis il a ramené ça. Ah. Seulement son père avait dit, quiconque touche à ça ou mange de la nourriture, la porte à sa bouche, dans cette journée, moi. Mais lui, il a été fortifié. Amen. Alors, en inspirant de cette scène, nous pouvons dire que la croix, c'est le moyen de nous nourrir de la parole de Dieu. Hein. Quand nous prenons soin de faire ainsi, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nos yeux s'ouvrent, nous sommes éclairés par Dieu, nous sommes renouvelés également dans nos forces, après tous ces combats, hein, les combats qui nous ont fatigués, qui nous ont épuisés à tout point de vue, plongeons nos regards dans la parole de Dieu. Nous en sortirons fortifiés. Alléluia. Puis également, il faut se laisser embraser par lui. Et là, nous avons l'exemple bien connu de Gédéon. Vous vous rappelez de Gédéon? Lui, c'était le plus petit, de la plus petite famille, de la plus petite tribu. Il y avait tout petit chez lui. Amen. Merci pour les petits. Hein? Oh, pour les géants aussi. Hein? Mais merci pour les petits, parce que quel exemple. Hein? Eh oui. Hein? Il se cachait dans un pressoir, il battait le froment. Ce n'est pas très, tellement agréable, la poussière que ça devait dégager. Mais enfin, bon, il le faisait parce qu'il voulait garder, eh bien, tout simplement, précieusement, cette nourriture. Il avait peur de Madian. Juges chapitre 6, verset 21, l'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main, toucha la chair du chevreau, et les pins s'enlevaient. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pins s'enlevaient, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Le bâton. Formidable ce bâton, hein? Est-ce que vous voulez que ce bâton vous atteigne? Le bout du bâton, l'extrémité du bâton. Vous communique le feu, hein? Vous savez, lorsque le cœur est mis en contact avec de la croix, bien sûr, et de son message, il y a un feu qui nous est communiqué. Amen. Est-ce que vous vous souvenez du feu du premier amour quand vous avez découvert que Dieu vous aimait? Quand vous avez été libéré de vos péchés, que vous avez reçu le pardon de Dieu. Vous vous rappelez? Mais il ne faut pas perdre le feu du premier amour. Gagner un petit peu en sagesse, en équilibre. Parce que quand on a le feu du premier amour, on s'aventure sur des terrains, on n'en a pas conscience. D'un coup, on ouvre les yeux, on dit, mais où je suis? Qu'est-ce que j'ai raconté? Qu'est-ce que j'ai fait? Ben après, on grandit, on s'équilibre. On évite de jeter nos perles au pourceau, etc. On devient plus sage. On a toujours le feu du premier amour. Amen. Et puis au premier contact avec quelqu'un qui était assoiffé de vérité, paf, le feu se propage. Amen. Et on amène des hommes et des femmes à la conversion. Alléluia. Alors pour continuer, je dirais, il faut se laisser rassurer par le bâton. Hein, tout simplement. Souvenez-vous du psaume 23, verset 4. Vous connaissez? Le psaume du bon berger. Au verset 4, il dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassure. » Alors, le bâton, là, il n'est pas pour les brebis. Mais il est destiné, au contraire, à frapper et à éloigner, à tenir à distance le loup, l'adversaire. Amen. De même, c'est la croix, son message, et je dirais la mise en pratique de son esprit, l'action de son esprit qui tient le diable à l'écart. C'est ce que dit Jacques, chapitre 4, verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Enfin, et je conclue, il faut savoir toujours s'appuyer sur le bâton. Amen. La croix, c'est le bâton du pèlerin par excellence. Pour assurer justement la sécurité, le soutien du marcheur. Amen. Il donne de l'assurance. Quand il glisse, hop, il se rattrape. Il a une troisième jambe. Amen. Eh oui. Lorsque Jésus va envoyer ses disciples, Marc chapitre 6, verset 8, il leur prescrit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton. De n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture. Amen. Sans doute, je le crois, pour être en mesure d'être prêt pour le retour du Seigneur. Amen. Le Seigneur revient bientôt. Ayons notre bâton. Amen. Rien d'autre, parce qu'on ne pourra rien amener là-haut. Hein? Un petit peu comme Israël lors de la sortie d'Égypte, Exode 12-11. Quand vous mangerez l'agneau, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main, vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Alléluia. Christ, notre Pâque, est ressuscité. Il est vivant. Amen. Il veille sur nous. Prends soin de nous. et vient nous défendre. Gloire à Dieu. Une dernière commention que Jésus va adresser en son temps aux disciples, c'est Luc chapitre 12, verset 35. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. D'accord ? Eh oui, eh oui. Parce que là, on peut trouver un appui sur Dieu. Amen. Hébreux 11, verset 21. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph, qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. On le retrouve encore, le bâton. Amen. Alors, je reviens à ce que je disais au début. Il est bon aussi de ne pas tendre le bâton pour se faire taper dessus. Amen. Ayant de la sagesse, de l'équilibre, obéissons à la parole de Dieu. Faisons en nous, quelque part, notre friandise de tous les jours. Amen. Et oui, parce qu'avec ça, on va loin. Amen. Que ce bâton soit pour vous. Vous voulez le saisir ce matin ? Allez, levons-nous ensemble. En disant, Seigneur, je saisis le bâton. Alléluia. Eh, le bâton de la foi, le bâton de la délivrance, le bâton de la guérison. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci parce que ce matin, tu nous as encore parlé, tu nous as fait du bien. Tu as fortifié la foi de quelqu'un, tu as éclairé un autre. Tu as donné des certitudes. Seigneur, sois béni. Parce que Seigneur, ce matin, tu nous visites les uns et les autres. Tu nous encourages. Sois loué notre Dieu pour toutes ces images que tu nous as laissées. Cet enseignement que nous trouvons dans ta parole, l'Écriture. Nous voulons la dévorer, nous voulons la manger, nous voulons la faire nôtre. Amen. Nous voulons laisser tomber aucune miette à terre, parce qu'elle nous ferait défaut un jour. Alors sois béni notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen.